Oui, Monsieur Mermet, bonjour. Charlie du côté de Clermont-Ferrand. Comment as-tu fait aujourd'hui pour soulever ce problème de la prostitution en Thaïlande, alors que tous les autres piscopies de la télé, de la radio et de partout ne pleurent que pour les disparus européens là-bas? Allez, à bientôt. T'en as quand même une sacrée paire, hein. À bientôt.
Daniel, eh ben, c'était pour te remercier de ton émission de ce soir, parce que depuis la catastrophe en Asie, ben, en fait, personne n'avait évoqué le problème de la pédophilie, alors que tout le monde sait pertinemment que au moins 20% des Occidentaux qui étaient partis en Thaïlande étaient partis ben, pour cette raison, hein, pour le commerce des enfants. Hein. Et donc, ben, c'est très bien ton émission de ce soir, et je te remercie de l'avoir diffusée. Pour une fois que depuis la catastrophe, quelqu'un s'occupe du problème. Un grand merci à toi, Daniel, et salut à toute ton équipe.
C'est Béatrice de Montluel. Et ben, je voulais remercier Daniel Mermet parce que voilà, c'est le premier journaliste d'Inter qui enfin dit que les touristes, les pauvres touristes qui ont été embarqués par le raz-de-marée en Thaïlande, et ben dans la plupart de ces touristes, il y avait quand même pas mal de gens qui allaient pour le tourisme sexuel. Et voilà, c'est le premier, donc je suis vraiment très très heureuse que ce soit dit. Qu'on parle enfin des gens qui sont morts à cause du tsunami, et que ce soit clair par rapport à ces gens qui sont morts, hein, dans les touristes.
Je suis une hôtesse de l'air qui a utilisé un billet gratuit il y a quelques années pour partir en Thaïlande pendant 3 semaines. J'ai adoré ce voyage, j'ai eu un coup de foudre pour ce peuple très pacifique, Land of Smile bien sûr, et j'étais très naïve, très naïve devant ce pays. J'ai adoré ce pays, tout le monde était effectivement très gentil, très, et c'est vraiment le pays de cocagne, parce que rien ne coûte cher, la nourriture est excellente, les massages sont formidables. On achète des cadeaux pour pas grand-chose, on dort pour pas grand-chose, on mange pour pas grand-chose. Et moi, je n'ai vu que ça, j'ai jamais vu, en fait, j'ai jamais visité d'endroit où le tourisme sexuel était vraiment présent, donc je ne connaissais même pas ça. Et c'est lors d'une rotation, ce qu'on appelle une rotation, lors d'un vol sur Bangkok, un jour, en vol professionnel, que j'ai découvert ces atrocités, en fait, faites à des femmes et apparemment aussi à des hommes, des petits jeunes garçons. Et j'ai trouvé ça m'a fait un choc, un deuxième choc en fait, mais l'inverse. Et ça m'a vraiment touchée. Je suis très heureuse d'avoir entendu ce reportage. Effectivement, vous le repassez sûrement à cause de cette catastrophe en Asie. En tout cas, j'ai été vraiment très contente d'entendre ce reportage.
Oui, bonjour à toute l'équipe de La Basse Issue, c'est Aurore de Toulouse. Donc j'ai 19 ans et suis étudiante. Et je viens d'écouter l'émission sur la Thaïlande que vous venez de faire. Et ben, je viens de me rendre compte que j'aurais pu être n'importe quelle de ces filles, n'importe laquelle, si j'avais pas été née en Occident et si j'avais pas eu cette chance-là, je pense qu'on peut dire ça. Donc vous avez parlé au cours de l'émission d'Occidentaux qui avaient bonne conscience parce qu'ils faisaient des actions humanitaires, mais je voudrais vous dire que je préfère aujourd'hui être une Occidentale qui a bonne conscience que une Occidentale qui n'en a pas, comme ceux qui sont actuellement en Thaïlande du Nord et qui font rien face à la catastrophe qui agit là-bas. Voilà. Donc je voulais juste vous remercier parce que ben, vos émissions sont très bien et puis vous nous montrez aussi notre désir de ne rien voir et ne rien faire. Voilà, à très bientôt.
Caroline, je trouve que Mermet est culottée, et même c'est scandaleux de poser des questions pareilles à des petites filles sur leur vie sexuelle, parce que c'est scandaleux de poser des questions pareilles, surtout de les dire à la radio.
Je suis un Bolivien de Paris, ça fait 20 ans que je vis ici, et je voulais réagir sur l'émission sur Chavez et vous dire que je vous remercie profondément parce que il y a une chose qui est fondamentale pour ces peuples d'Amérique latine, si loin de la main de Dieu et si près des États-Unis, c'est de récupérer leur dignité. Cette dignité qui a été enlevée depuis si longtemps. Nous travaillons dans un quartier depuis quelques temps, depuis 3 ans, dans un quartier très pauvre c'était la Bolivie, où on a monté une école supérieure de théâtre pour donner de la dignité aussi à ces gens-là. Je pense que c'est fondamental pour le réveil de la justice et de l'égalité, de la dignité. Et cette émission que vous faites, elle montre bien que grâce à des hommes comme Chavez, bah, l'Amérique latine commence peut-être à te découvrir un nouvel espoir. Et je vous remercie de tout mon cœur pour, voilà, pour nous donner cette occasion. Et je vous dis au revoir avec peut-être cette petite note si agréable où on, voilà, merci. Merci, et peut-être que la révolution vaincra un jour.
Salut à tous. Je viens de rentrer de quelques temps d'absence. Là. J'étais à Santiago de Cuba, dans une famille cubaine avec ma femme. C'est une famille où, qui a recueilli ma femme pendant un an, où elle a fait ses études à Santiago, à Cuba. Et je tombe sur le répondeur, le Venezuela à Chavez, et l'émission sur les gamines de Thaïlande. Et c'est vrai que... quand on sort de trois semaines avec des Cubains à vivre à la cubaine, on n'est pas trop habitué à voir tout ça d'un coup. Enfin, toujours est-il que depuis que le mur de Berlin est tombé, pour Cuba, il a fallu tout faire à l'intérieur de Cuba pour Cuba. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire sur le régime de Fidel Castro, mais il y a beaucoup à dire sur la manière dont le peuple cubain ben, le soutient Fidel, aussi bizarrement que ça puisse paraître, et s'inquiète surtout de son avenir, de ce qui va arriver demain, quand il n'y aura plus Fidel, quand ça ne sera pas des mecs qui auront fait la prison et qui auront pris les armes pour défendre le pays, mais des mecs qui seront nés dans un système. Ça, ça les inquiète. Mais pour ce qui est de Fidel, il n'y a pas trop de... Non, non, hein, ils le soutiennent, le vieux. Bon, je vous fais un gros bisou. Il y a beaucoup à dire hein, sur Chavez aussi. Hein, l'idée de savoir lire, écrire, avoir la santé, trois repas par jour, ça tient la route hein, dans des pays comme ça. Faut pas vous perdre l'idée qu'un habitant sur deux sur la planète, c'est un paysan. Hein, et la plupart d'entre eux, ils ont pas de terre. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, Yves. Portez-vous bien.
Oui, bonjour Daniel Mermet, j'ai beaucoup de plaisir à écouter votre série sur le Venezuela. Je m'y suis rendu moi aussi il y a bientôt un an pour essayer de comprendre pourquoi une telle hystérie s'était dégagée à l'encontre d'un président démocratiquement élu. Alors j'ai vu plein de choses intéressantes, plein de gens passionnés dans les quartiers populaires notamment, des gens qui existent pour la première fois de leur vie. Mais j'ai surtout vu des télévisions privées qui mènent une guerre sans merci au gouvernement et qui diffusent à longueur de journée des appels à manifester contre le gouvernement et qui diffusent aussi des émissions où d'éminents spécialistes se penchent sur l'état de santé mentale du président, ou même, je vous jure que c'est vrai, sur les relations sexuelles qu'il entretiendrait avec Fidel Castro. Donc on l'a compris, la grossièreté, la calomnie, le mensonge sont les armes favorites de ces télés. Des télés évidemment qu'on ne pourrait pas voir chez nous, on ne les laisserait pas agir comme ça, et c'est bien normal, je pense que le CSA les ramènerait vite à l'ordre. Mais là-bas, on peut tout dire au Venezuela, puisque bah, l'objectif de ces télés, c'est évidemment de se faire interdire en jouant la provocation permanente. Et il ne reste plus que ça, puisque les organisations de défense des droits de l'homme reconnaissent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Venezuela, il n'y a pas de journalistes en prison. Quoi qu'en disent certains de vos auditeurs dans leur délire ce jeudi, certains auditeurs qui visiblement se shootent aux mensonges de l'opposition. Bah, je pense qu'ils doivent faire ce que vous avez fait, ce que j'ai fait, ce que d'autres ont fait, c'est d'aller voir sur place et comprendre ainsi que le processus démocratique, même s'il est complexe, même s'il est lent, comme tout est lent en politique, je crois, que ce processus démocratique est bien en marche. Voilà, c'était Michel en Belgique.
Oui, bonjour Daniel, Cédric de Périgueux. Je t'appelle pour t'annoncer la diffusion d'un court-métrage samedi dans l'émission Les films faits à la maison sur Canal vers minuit qui s'appelle Reculade sociale. Ce film montre sous forme de texte ce qu'on a perdu socialement au niveau du travail et de la retraite depuis 2003 et ce qui va peut-être arriver dans les années futures. Reculade sociale sera aussi visible sur le site www.lesfilmsfaitsalamaison.com ou sur le site de Canal+, rubrique Les films faits à la maison. Merci, allez, salut Daniel.
Merci, merci, merci pour vos messages, les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, le lobby des labos, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de ces labos et de ces lobbies, ils ont l'air de faire semblant de changer un petit peu. Il faut suivre ça de près. En tous les cas, on a déjà suivi ça Et aujourd'hui, on y retourne. Pourquoi on y retourne aujourd'hui? Parce que, voilà, on vous dit que, mais attendez, on était parti pour le Venezuela, et voilà. Alors, je vais tout vous expliquer. Il se trouve que je suis juré d'assises. Voilà, j'ai été, ça arrive, tiré au sort, au hasard, sur les listes électorales. Et donc, je suis juré dans un jury d'assises. Et ça, c'est impératif, c'est un devoir impératif que tout citoyen doit assumer. C'est ce que je suis en train de faire avec beaucoup d'intérêt. Je suis en train de marcher dans un escalier. Voilà, donc nous reprendrons le voyage au Venezuela dans les jours qui viennent, normalement. D'ici là, donc, le lobby des labos. Mais aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est une pensée, mais alors vraiment chaleureuse, fraternelle, pour notre amie Florence Aubenas. Florence Aubenas, j'ai entendu ça ce matin, n'a pas donné de nouvelles depuis mercredi, et Florence Aubenas est une formidable... D'abord, c'est une amie... C'est une amie de la Bastille Suisse, c'est une formidable journaliste et j'espère que les choses vont pouvoir s'arranger. On est très inquiet pour elle. Voilà. En route pour le lobby des labos. Excusez-moi pour l'essoufflement. J'arrive au tribunal.
C'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Salut, le lobby des labos.
Flight number 2, arriving from New York.
Comment on commence déjà? Comment on t'appelle?
Bon, on va dire que je m'appelle Charlie. Mon titre exact, il est délégué à l'information thérapeutique et je suis mandaté par un laboratoire pour porter une information éthique sur le produit. Mais sinon, la dénomination commune, c'est visiteur médical. La visiteur médical, c'est de prendre sa voiture le matin et d'aller sur un secteur donné, d'aller visiter des médecins. C'est-à-dire qu'on nous demande de voir si on peut voir 6 médecins, c'est bien. Si on peut en voir en moyenne 6,5 par jour, c'est mieux. Donc on va voir les médecins, on attend en salle d'attente et on lui explique un peu les tenants et les aboutissants du produit qu'on présente.
C'est un peu VRP des laboratoires, quoi. VRP du médicament.
Bah, c'est VRP du médicament, tout à fait, puisque en fait, bien qu'on ne vende pas directement, on est marchand en médicaments, puisqu'on est là pour faire la promotion d'un médicament, et avant toute chose, c'est sa promotion. Ouais, c'est pas du tout une information objective, voire éthique, c'est une promotion suivant une stratégie marketing définie au préalable par le laboratoire.
On ne dit pas le nom du labo, et on ne dit pas non plus dans quel coin de France on est en train de tourner en voiture.
Ben non, on dira qu'on est quelque part en France, qu'il fait beau, et que ben, si on dit le nom du labo, je risque d'avoir quelques problèmes. Parce que les labos n'aiment pas trop qu'on dévoile leur stratégie de communication. Les labos, c'est un monde qui génère beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça que la discrétion reste leur maître mot.
Alors voilà, un petit tour avec un VRP, voyageur représentant placier, un petit peu particulier, même s'ils sont très nombreux, ces visiteurs médicaux à travers notre petit hexagone. Ils seraient au moins 15 000. Au moins 15 000, peut-être plus, 20 000, 25 000, selon des calculs différents, et de 17 000 à 24 000 exactement, et qui arpentent les départementales, les nationales, les autoroutes à la recherche des médecins. Ils arrivent à les trouver facilement. C'est pas toujours facile, il y a un certain nombre de médecins qui sont rétifs, qui sont récalcitrants, mais enfin, la plupart reçoivent ces visiteurs médicaux. Ils en reçoivent parfois beaucoup. C'est que votre médecin, là, que le brave type qui s'occupe de votre petite santé, de notre petite santé à chacun, eh ben, il coûte cher. Oui, il coûte cher à qui donc? Ah, mais pas à nous, bien sûr. Non. C'est au labo qu'il coûte cher, à l'industrie pharmaceutique qui dépense beaucoup d'argent pour le marketing. Plus d'argent pour le marketing que pour la recherche. Et on avance un chiffre faramineux qui est celui de ce que coûte un généraliste chaque année pour ce lobby pharmaceutique. Eh bien, c'est autour de 30 000 euros par an, c'est-à-dire autour de 200 000 francs chaque Ça, c'est des chiffres qui datent de 1992. Hein, ça a dû augmenter un petit peu depuis. Donc voilà, on va faire un tour avec cet auditeur qui, vous le voyez, dans notre pays libre, reste absolument resté anonyme. Mais il a eu le courage et l'envie de dire comment ça se passe. Il n'est pas le seul. Lorsque nous avions fait ces reportages sur les pressions de l'industrie pharmaceutique, vous avez été nombreux à vous manifester. Je parle aux visiteurs médicaux à dire « mais moi je suis d'accord pour témoigner, pour dire comment ça se passe ». Et finalement, c'est avec Charlie qu'on se balade aujourd'hui avec ce délégué à l'information thérapeutique prestigieux.
Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de faire de la communication, c'est que les médecins connaissent les produits.
Voilà, qu'ils connaissent les produits, surtout qu'ils les prescrivent. Puisqu'on est là pour, en fait, on est là pour faire vendre, nous.
Ouais, donc ça veut dire que ça marche, quoi. C'est un boulot qui marche.
Ah bah, c'est un boulot qui marche, ouais. De plus en plus, sur les secteurs, on voit évoluer de façon croissante le nombre de visiteurs médicaux. La pression de visite est de plus en plus importante sur les médecins. Et donc, bah, on est là. De plus en plus, on nous demande de faire un boulot de vendeur.
Alors qu'à l'origine, c'est de l'information médicale. C'est présenté comme tel.
Voilà, mon titre exact, c'est délégué à l'information thérapeutique. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je suis là pour apporter une information sur le produit, mettre en garde le médecin contre les éventuels effets secondaires liés au produit, les interactions médicamenteuses. Et voilà, normalement, mon boulot, ça devrait être ça. Maintenant, il est complètement biaisé par le fait que mon labo me dise « vous êtes jugé sur des chiffres ». Ces chiffres, vous avez un objectif, donc il faut faire vendre. Il faut arriver chez le médecin, lui dire faut prescrire le mien et pas les autres. Quoi. Alors bon, comment on y arrive? Soit on y arrive par sa personnalité, soit par les moyens qu'éventuellement le labo peut mettre à notre disposition, bon, puisqu'on peut très bien l'inviter à dîner ou à déjeuner. On peut l'emmener en week-end aussi, sur base d'un congrès précis. Et puis on peut aussi lui proposer des études de type phase 4, des études rémunérées, et déclarer pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre 4 patients dans sa clientèle, leur prescrire le produit concerné et être rémunéré de l'ordre de 800 à 1000 francs par chaque cas. Mais l'objectif est clair, c'est de la vente. On ne s'inscrit pas dans le souci patient, en fait, c'est quelque chose de secondaire, quoi. Notre produit est le meilleur, il faut à tout prix que le médecin le prescrive au patient.
Ah ouais, vous êtes là, votre boulot, c'est de creuser avec la pelle, de creuser le trou de la sécu, en gros.
À mon échelle, ouais, tout à fait, je contribue. C'est mon boulot. Faut savoir que les labos pharmaceutiques, c'est un lobby important en France. La visite médicale, c'est quand même beaucoup de monde sur le terrain, donc...
Combien de personnes? 15 000, je crois, 15 000 visiteurs médicaux qui patrouillent, comme on le fait aujourd'hui, toute la France entière, chaque jour.
Voilà, c'est ça. Il y a 15 000 personnes qui, tous les matins, prennent leur voiture pour aller porter la bonne parole sur tout un tas de produits, quoi.
C'est ça, il y a un peu un côté missionnaire, quoi. Il y a un prêcheur de l'industrie pharmaceutique.
Voilà, en permanence, on va chez le médecin pour lui dire « ne m'oubliez pas, mon produit fait ci, fait ça, il est meilleur que les autres ». Voilà, c'est ouais, prêcheur, ouais.
Et vous savez, votre petit missel, là derrière, avec tous les arguments pour le médicament. Puis le laïus a répété la profession de foi.
Voilà, en fait, je veux dire, pour le médecin, je comprends que ça puisse être un peu pénible, parce que quand il reçoit un réseau de visites médicales d'un labo qui lui parle de ce produit, et le lendemain, il reçoit l'autre réseau, parce qu'il faut savoir que les labos sont structurés en plusieurs réseaux de visites médicales, et que leur stratégie, c'est de dire, bah, plus on passe de fois chez le médecin, plus mieux ça marche.
Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe, au moins 15 000 tous les jours à circuler en France pour visiter les médecins. On va voir comment ça se passe, comment se passe cette visite. C'est des coups de marketing, des pressions amicales, des jeux d'influence. Le lobby des labos, le lobby pharmaceutique est l'un des plus puissants lobbies du monde. 43 groupes leaders sur le marché mondial du médicament, avec l'américain Pfizer, avec GlaxoSmithKline, avec Novartis, évidemment, Sanofi, Syntelabo, Aventis, etc. C'est l'ensemble de ces big pharma, comme on dit, dont 11 sont américaines, emploie au total près d'1,5 million de personnes dans le monde et réalise plus de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'une seule molécule miracle comme le Viagra, par exemple, c'est le jackpot, ça fait jusqu'à 7 milliards de dollars de vente. 7 milliards de dollars de vente. Et
il y a encore des possibilités. On sait que ce produit est limité en France. Alors, lobby des labos, influence, on va voir l'influence sur les médecins et donc sur notre vie quotidienne, sur notre santé, sur le trou de la sécu. Le Charlie avec qui se trouve Guy, il vient de nous le dire, et avec sa petite cuillère, il creuse le trou. Mais c'est aussi d'autres influences. Aux États-Unis, par exemple, ce lobby des labos, eh bien, en l'espace de 3 ans, entre 1997 et 2000, les laboratoires ont déboursé plus de $300 millions pour soutenir les partis politiques de tous bords. Et le candidat Bush ne s'en plaint pas, lui qui a récolté plus de $50 millions. Et comment, c'est un type qui est reconnaissant, l'air de rien. Il a pas l'air, mais il est quand même, il sait remercier ses amis et aussitôt installé à la Maison Blanche. Eh bien, le nouveau président avait nommé à la tête du bureau du budget l'un des plus grands ponts du secteur pharmaceutique, un ancien patron d'une grande boîte de produits pharmaceutiques. Voilà, c'est une chose que tout le monde sait et que Julie Jolie dans l'Express avait souligné. Poids considérable de l'industrie pharmaceutique, de l'horreur pharmaceutique sur nos vies et sur la vie d'un médecin qui n'est pas forcément récalcitrant.
On arrive.
Alors on est en train d'arriver dans ce petit village en pleine campagne.
Eh bien on va faire une visite à un médecin généraliste en zone rurale. Donc on va aller lui rappeler de ne pas oublier mon antibiotique.
Allons voir. C'est un bon client.
Il y a un collègue derrière.
Il y a un collègue visiteur médical.
Ouais, il y a une voiture 75, je pense que c'est un collègue.
Ah, donc le médecin est déjà sollicité. Là, on rentre. Bonjour. Alors une salle d'attente. Est-ce que vous êtes patiente, vous, madame ?
Ah non, je suis visiteuse aussi.
Ah bon ? Vous aussi, vous êtes visiteurs médicaux ? Ah d'accord, donc en fait, il n'y a pas de malades, il n'y a que des...
Et c'est que des visiteurs médicaux.
C'est fréquent, ça, qu'on arrive dans une salle d'attente et qu'il y ait 3 personnes avec leurs malades qui attendent ?
Non.
Hein ? Il n'y en aura pas plus de 3, il y a une règle déontologique qui veut qu'on reste au maximum, qu'on soit 3 dans une salle d'attente.
Non, mais c'est rare qu'on soit quand même que des visiteurs médicaux. Il y a en principe des patients. Et en principe, on alterne même. C'est-à-dire qu'un visiteur médical, un patient, un visiteur médical, un patient. De toute façon, c'est le médecin qui décide.
Mais vous êtes des concurrents tous les trois ?
On ne sait même pas.
On ne sait même pas ?
Non. Puis on est hyper nombreux, hein. On est très très nombreux. On a mauvaise réputation quand même auprès des patients. On nous appelle les voyageurs.
C'est vrai.
C'est sympa, mais bon.
On raisonne en termes de chiffres. Et donc, pour faire du chiffre, il faut aller voir des médecins.
Ouais.
Merci. Ah, c'est notre tour. Au revoir.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur.
Allez.
Merci. Allez, le cabinet.
Oui, mais je vous écoute.
Ouais, bah simplement, non, vous rappelez l'utilité du cabinet dans votre prescription au quotidien.
Cet antibiotique, oui.
Voilà, un antibiotique qui marche bien, notamment sur tout ce qui peut être germes type strepto, pneumo, donc qui n'engendre pas de résistance, ça vous le savez.
Oui, d'une prise facile.
D'une prise facile, absolument, qui facilite le confort et l'observance du traitement, puisqu'en fait, une prise de une fois par jour.
Oui.
De gélules, donc sous blister préformé.
Et pour une fois, les boîtes sont de bon dosage.
Tout à fait.
Puisque c'est 1 comprimé par jour, 2 comprimés par jour, 5 jours.
Ouais, c'est ça.
Donc, pas de 5 10.
Jours. Voilà, tout à fait. Et recommandé en première intention par l'AFSAT.
Oui, mais ben, actuellement, de peu d'utiliser, puisqu'il n'y a pas de pathologie.
Il n'y a pas de pathologie.
Respiratoire. Ouais, ni ORL.
Rien, bah non.
Voilà. Il faut faire des économies par certains autres, parce qu'il est en bon dosage. 2 par jour, 10 jours, donc une boîte. Donc 5 jours, donc une comprimée, une boîte.
Voilà, vous savez tout, docteur.
Comment on vous appelle, docteur A ?
Oui, oui, pourquoi pas.
Bon, vous êtes généraliste ?
Oui.
Vous exercez donc en zone rurale ?
Oui.
Ça fait combien d'années ?
Oula, 1976.
Là, on est les combientièmes à venir vous visiter, par exemple ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Les 3e, représentant les visiteurs médicaux. C'est pas une perte de temps, sinon je les refuserais. Ça permet d'apprendre pas mal de choses. Les laboratoires nous invitent quelquefois pour nous améliorer dans notre connaissance.
Qu'est-ce qu'il vous dit pas sur ce médicament, notre ami visiteur médical?
Pour le moment, il ne m'a pas parlé des effets secondaires, parce qu'il y en a toujours. Il ne m'a pas parlé des contre-indications chez certains individus, qui pourraient être diabétiques, qui pourraient être âgés ou trop jeunes. Moi, je sais que si j'avais, depuis 1976, si je n'avais pas eu de visiteurs médicaux, il y a plein de médicaments qui seraient passés sous le nez, je n'aurais pas connu, puisqu'on est quand même un peu isolé, et que je ne peux pas lire la presse médicale tous les jours. Et qu'il faudrait que je m'abonne à pas mal de journaux de la presse médicale. C'est utile.
Aujourd'hui, grâce à l'action de la molécule FC2 qui diffuse un froid constant...
Et si vous commenciez une nouvelle vie?
Vous aimeriez l'aide d'un expert. Réservé à l'adulte, bien lire la notice.
Médoc, on appelle ça en argot les médocs. Pression des laboratoires sur des médecins qui affirment être de cette façon informés lorsque le visiteur médical vient. Arrive, vous avez vu comme ils sont nombreux. Voilà le point de vue de deux journalistes spécialisés, Martine Bullard, qui est au monde diplomatique et qui est en charge du dossier santé, et puis Philippe Pignard, qui est un repenti de cette industrie pharmaceutique. Il était dirigeant dans le laboratoire Sanofi Santé-Labo et il est auteur de livres qui font pas mal de bruit, surtout chez les professionnels, mais pas seulement, aussi bien auprès du grand public, et notamment son bouquin Le grand secret de l'industrie pharmaceutique et comment sauver vraiment, entre parenthèses, la sécu. Parce qu'évidemment, ces préoccupations-là sont liées aux préoccupations générales du fameux trou.
Il faut aider les médecins français à résister à la pression de l'industrie pharmaceutique. Ne serait-ce que c'est la pression de la visite médicale. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des visiteurs médicaux qui viennent présenter les médicaments et qui les présentent forcément sous leur aspect le plus positif et qui sont formés, surformés à répondre à toutes les questions du médecin pour détourner son attention des éventuelles difficultés que ce médicament présente, de ses éventuels effets secondaires, de ses limites éventuelles. Ils sont formés à toutes les techniques pour ne pas répondre, ou pour répondre à côté, ou pour convaincre le médecin que sa question est une question inutile, à chaque fois que le médecin va poser le problème des limites du médicament ou de ses effets secondaires.
Mais sur l'état des lieux, est-ce qu'on peut dire que les prescriptions de nos médecins sont sous influence, justement, avec
oui,
cette formation?
Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont, d'abord, vous êtes formés éventuellement en allant passer un week-end à la Barbade, un week-end...
Est-ce que c'est vrai, ça?
Mais bien sûr que c'est vrai. Mais... Bien sûr que ça se passe pas aussi grossièrement que ce que je suis en train de vous dire. On vous dit pas, attendez, voilà, moi je produis tel produit, je vous invite à passer deux jours à Venise avec votre femme, votre ami, tout ce que vous voulez. Non, on vous dit jamais ça comme ça. On vous dit, il y a un congrès sur le mal de dos qui est organisé comme par hasard avec l'entreprise qui produit le médicament contre le mal de dos. Après, le système se fonde comme ça. Mais enfin, il y a le service public. Il y a l'Agence française de sécurité sanitaire et médicaments qui s'occupe de ça, qui devrait avoir les moyens. Quand bien même ils voudraient... Ils sont 10, enfin je sais pas combien ils sont, mais ils sont très peu nombreux face à une armée de commerciaux qui sont formés au langage que vient de dire Philippe Pignard. Donc évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire? Et moi, ça, je crois que c'est un problème de service public.
Et oui, rapidement, on en arrive au même constat. C'est pas une affaire directement de positionnement politique, mais on arrive tous au même constat, c'est-à-dire que le marketing dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, le marketing prend le pas sur tout le reste. Et là, en l'occurrence, c'est quand même un domaine évidemment primordial, cardinal de nos vies. Quand le marketing prend le pas sur la recherche dans l'industrie pharmaceutique. Mais on l'a vu avec cette visite auprès de ce médecin, pour lui comme pour d'autres, comme pour pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, il n'y a pas d'alternative. Et, ou bien alors, s'il y a une alternative, vous qui êtes si malin, ben dites-la.
Les réunions faites par les laboratoires sont intéressantes, faites par les médecins entre eux. Là, il n'y a aucun problème de marketing parce que c'est le laboratoire qui sponsorise, mais très souvent le nom du médicament n'est jamais cité.
Ouais. Mais c'est toujours les laboratoires qui payent.
Ce sont toujours les laboratoires qui payent. Oui. Si vous avez une autre solution pour ce genre d'enseignement, dites-la moi.
Et ça coûte cher, par exemple, pour avoir une idée.
Alors là, ça, c'est pas de mon ressort. Mais je sais que des soirées à thème ou des week-ends à thème, où j'ai fait un week-end il y a pas très longtemps, où nous étions une quinzaine de médecins. Hein? C'était 8 heures de travail le samedi, c'était 3 heures le dimanche. Et ensuite, nous étions donc au repas du soir, invités la nuit d'hôtel et le petit déjeuner et le repas de midi. Si le laboratoire fait ça, c'est rentable, mais c'était très, très sérieux, je veux dire.
Au revoir.
Au revoir.
Et bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir.
Alors Charlie, professionnellement, en tant que visiteur médical, qu'est-ce qu'on peut dire sur un médecin généraliste comme celui-ci, comme le docteur A qu'on vient de voir ? Il dit, c'est utile pour moi de voir des visiteurs médicaux parce qu'ils viennent combler un vide. Mais il dit, mais je me laisse pas influencer. Ce discours de promotion et de marketing, ça joue pas sur ma prescription. Est-ce qu'il a raison ?
Oui, il l'est, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui va garder sa libre faculté de prescription. Maintenant, est-ce que le matraquage, le discours, le même message délivré par les laboratoires ne conduit pas de manière inconsciente à prescrire le produit ? Bah, les labos misent là-dessus. La preuve, c'est que les gros labos qui ont les moyens multiplient leur réseau et donc accentuent la pression de visite médicale sur le médecin en délivrant un même message et en nous disant bien, de surtout dans la conversation, de bien répéter le nom du produit pour que ça rentre de façon indélébile dans le cerveau du prescripteur. Voilà, ça c'est le message qui est délivré par les labos. Et donc on essaye de faire mémoriser le produit de manière inconsciente au prescripteur.
Inconsciente,
ouais. Ouais, inconsciente, je crois que c'est ça, ouais, parce que finalement, moi plus on me répète un truc, plus je vais le mémoriser. Et là, je crois que c'est un peu la même chose. Après, on peut aussi envisager des congrès à l'étranger. Je pense notamment à un congrès de rhumatologie qui a lieu à Marrakech et sur lequel on peut inviter certains médecins. Donc des prescripteurs ou quelqu'un qu'on veut remercier pour le travail de prescription qu'il a fait sur notre produit, il nous a beaucoup prescrit, eh ben on va lui proposer 3 jours ou 4 jours à Marrakech au congrès et tout frais pris en charge, bien sûr.
Est-ce qu'on bosse vraiment à ces congrès de médecins ?
Disons qu'on bosse la moitié du temps, quoi. On bosse un peu le matin et puis l'après-midi, on va visiter la ville en calèche ou on va au bord de la piscine ou on va faire du golf. Enfin, il y a quand même une animation diverse et non plus médicale de proposer.
Alors, on continue la visite. Qui on va voir maintenant ?
Le docteur B.
Oui.
Il est médecin référent, éthique. Éthique, il consacre beaucoup de temps à sa propre formation et...
Ouais. Allez, on va regarder Dr B. Ah, c'est quoi ça ?
Ça, c'est l'agenda des...
C'est-à-dire l'agenda des visiteurs médicaux ? C'est dans la salle d'attente ?
C'est dans la salle d'attente et ça sert à s'inscrire puisque ce médecin nous reçoit que lorsqu'on est inscrit. C'est-à-dire qu'il limite en fait la pression de visite médicale, il en prend 2 chaque jour. Dans ces 3 en fait.
Ah, et alors là c'est tous les labos qui sont
là. Ouais.
Ça c'est juste une semaine par exemple du mois de mai.
Voilà.
Et il y en a 3 par jour, tous les jours. Le jeudi. Et on voit les noms des laboratoires. Roche, Pfizer, qui est le numéro 1 mondial, c'est ça?
Servier. Labo français.
Pfizer qui revient un autre jour.
C'est un deuxième réseau Pfizer.
Aventis. Abbott.
Aventis Diabeto.
Un autre Aventis
le vendredi.
Donc, sur ce mois-ci, ça fait...
Ça fera 50 labos.
50 labos qui sont venus voir ce médecin qui décide de limiter à 3 par jour.
Tout à fait.
Et donc, il peut, sur un même mois, se faire présenter plusieurs fois le même médicament.
Tout à fait. Même sur d'un jour à l'autre, hein, ça peut arriver. Puisque, en fait, tu t'inscris suivant les disponibilités. Et si tu regardes le cahier...
Juin, c'est déjà pris. Juillet, c'est déjà pris en partie. Septembre, c'est complètement pris. Jusqu'en novembre, il y a des rendez-vous qui sont pris. Ça veut dire que c'est vraiment une pression.
C'est fort.
Bonjour, docteur.
Bonjour, docteur.
Bonjour. Entrez.
Merci.
Ça va ?
Ouais.
Docteur B, nous voilà dans votre bureau.
Bon, moi je suis médecin généraliste depuis 20 ans.
Ben, si vous voulez, moi j'estime que la visite médicale a un rôle important à jouer. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle obéisse à certaines règles. Parce que, faut pas se leurrer, les laboratoires pharmaceutiques sont pas des entreprises philanthropiques. À partir du moment où elles investissent dans un domaine de recherche, effectivement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement à la sortie, au niveau financier. Donc, à partir de là, vous arrivez dans le côté marketing, commercialisation des laboratoires. Mais le point le plus important, je pense qu'il faut que le prescripteur garde son œil critique. Mais ça, c'est compliqué à faire pour des médecins, je le conçois tout à fait. Dans la masse d'informations qui sont diluées et amenées par le marketing des laboratoires. Oui, allô? Oui, oui, oui. Ouais, d'accord, merci, au revoir.
Alors, les choses sont tellement... Il y a une telle pression sur les médecins qu'il existe... On va rencontrer, bien sûr, des objecteurs de visite, c'est-à-dire des médecins qui refusent l'accès de ces visiteurs médicaux à leur cabinet. Et il y en a même qui imposent aux visiteurs médicaux de payer. De payer comme pour une visite. Vous me faites perdre mon temps avec votre visite. Eh bien, vous payez. Et les labos sont d'accord pour payer. Ça semble tout à fait aberrant. Il y a une espèce de monstruosité du marketing qui nous est on ne sait pas trop, on ne sait pas bien, on y pense et puis on oublie. Je rappelle quand même ce chiffre étonnant. L'industrie pharmaceutique dépense en France plus de 20 000 euros par an et par médecin, c'est-à-dire autour de plus de 130 000 francs par médecin, c'est ce que ça coûte au labo. Évidemment, tout ça s'est répercuté dans le prix des médicaments et bien évidemment dans le trou de la sécu. Voilà, il y a peut-être une piste là qu'on pourrait explorer, non ?
Mais là, en l'occurrence, c'est un système pour la formation des médecins sur les nouveaux médicaments qui est entièrement aux mains du marché.
Absolument, aux mains de la pharmacie.
Ce qui est très étrange d'ailleurs, c'est que finalement, vous employez le mot d'influence, quoique le mot est juste, parce que les médecins pensent intimement qu'ils sont indépendants et que ça les influence pas. Et ça, il y a une étude intéressante qui a été faite aux États-Unis. On a pris deux écoles de médecine, enfin c'est des universités, ce qu'on appellerait des universités pour former des médecins aux États-Unis. Une où les visiteurs médicaux peuvent venir, et une autre où il se trouve que les visiteurs médicaux sont interdits, parce que depuis, traditionnellement, on interdit aux visiteurs médicaux d'aller rencontrer les étudiants de cette école. Et donc, on a regardé les étudiants de dernière année qui prescrivent déjà des médicaments, qui sont déjà stagiaires et qui prescrivent des médicaments. L'étude a regardé ce qu'ils prescrivaient et pour voir si là où les visiteurs médicaux venaient...
C'est-à-dire là où les laboratoires pharmaceutiques
pouvaient former, est-ce qu'il y avait une influence. Et on leur posait une double question en plus, on leur demandait, est-ce que vous pensez que vos prescriptions sont influencées par la visite des visiteurs médicaux. Les résultats sont tout à fait stupéfiants, à savoir que effectivement, dans l'école où les représentants pharmaceutiques peuvent venir, les prescriptions sont complètement différentes et sont complètement liées aux visites qu'il y a eu, complètement liées. Mais les médecins répondent tous en même temps, on n'est pas sous influence. C'est-à-dire qu'ils sont sous influence, mais ils ne le voient pas. Donc c'est une vraie influence, au sens très subtil du mot influence. C'est-à-dire c'est une influence qui se rend invisible elle-même. C'est-à-dire que les médecins restent convaincus qu'ils sont totalement indépendants et que ça les influence pas et qu'ils font quand même comme ils veulent. Et là, c'est tout à fait, effectivement, c'est tout à l'heure. Maintenant, sur la consommation en France par rapport aux autres pays, si on prend les 10 dernières années, quand même, les chiffres 1990-2001, donc vraiment les 10 dernières années, quand même, la consommation, le coût, la dépense en médicaments par Français a augmenté de 63% en France, alors que dans le même temps, en Allemagne, elle a augmenté de 17%. Donc oui, là, c'est quand même, ou en Italie, de 28%. On est les recordmen du monde. Alors, c'est vrai que... ça augmente partout. Ça augmente partout, mais ça augmente plus vite en France. Et si vous voulez, en France, quand même, il y a un vrai problème, c'est que c'est le pays où on consommait le plus. Mais les prix n'étaient pas très forts. Maintenant, on est toujours ceux qui consomment le plus, mais les prix deviennent très élevés. Là, c'est vraiment une question qu'il faut avoir en tête. Comment on aide les médecins à mieux résister à la pression de l'industrie pharmaceutique?
L'efficacité en 3 points pour mieux respirer.
1. Ma poitrine.
Pour décongestionner. 2.
Mon dos.
Pour aider à calmer ta toux sèche.
Et 3.
Et on reprend la visite.
Et on reprend, ouais. Il faut voir 6 à 7 par jour.
6 à 7 par jour.
Ouais, c'est ce que demande le labo en règle générale.
Si tu peux en faire 7, c'est mieux. Ouais. Enfin bon, c'est vrai, moi j'ai un boulot qui me permet de... Quand même, je travaille dans des conditions décentes, j'ai un boulot intéressant, j'ai des relations humaines, j'ai des collègues, ça se passe bien avec eux, c'est sympa, quoi. Je veux dire, t'as quand même un sentiment d'indépendance, mais qui a tendance à se restreindre maintenant. Tu vois, tu deviens beaucoup plus instrumentalisé pour faire du profit, quoi. Tu sais, moi, je connais deux ou trois personnes qui, dans ce boulot de visiteur, ont pété les plombs, quoi, littéralement. C'est-à-dire, ont tout arrêté du jour au lendemain et soit sont au chômage, soit sont reconvertis dans tout à fait autre chose, quoi. Parce que les chefs, eux aussi, sont tellement sous pression que ils la communiquent à leur entourage le plus direct, à savoir leurs visiteurs médicaux, quoi. Donc, je pense qu'il y a des choses à améliorer dans cette profession, peut-être. Qu'il y ait une instance indépendante qui se penche sur la question en obligeant les laboratoires à communiquer de manière un peu plus rigoureuse et de manière un peu plus honnête. Pas tous, mais certains qui sont connus et identifiés et qui sont, je veux dire, c'est de l'épicerie, quoi, ce qu'ils font. On vend des trucs qui servent à rien. Enfin bon, mais bon, il faut vendre. Comme me disait, je travaillais dans un labo où le directeur de la visite médicale nous disait, vous êtes des fantassins. C'est-à-dire qu'on devait avancer en formation serrée pour arriver à nos objectifs. Donc c'est vraiment une guerre, tu vois, c'est...
La guerre économique.
La guerre et les images, ouais, c'est très guerrier. On est les meilleurs. Tu vas dans les séminaires, les 10 meilleurs montent sur le podium, sont longuement applaudis. Et on leur dit, voilà, vous avez devant vous les exemples vivants du laboratoire, quoi. Pour te remotiver vraiment et que quand tu reprends ta voiture le lundi matin, bah t'en fasses 8, quoi. Voilà, parce que t'es censé être le meilleur dans un environnement hyper concurrentiel. Et puis on te fait pétocher, ouais, parce qu'on me dit, attends, t'as vu ta moyenne ce mois-ci, t'es qu'à 5,80, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que si ça continue, ça posera un problème. Puis bah tu vois, des fois le soir, quand j'en ai un peu marre, je m'arrête au bord d'une rivière, comme doit y avoir là, et puis je prends ma canne à pêche et je vais à la pêche. Parce qu'il y a quand même besoin de décompresser des fois.
Comment ça va? Ben moi ça va. Et toi? Ben ça va. Et ton chat, comment qu'il va? Eh ben il va comme un chat. Aïe,
aïe,
oui.
Oh,
oh. J'ai mal ici, où c'est que t'appuies? Un sac à dos, j'ai pourri de mon vieux mot. J'ai sous le pied un chien mal écrasé. Mais ça va passer, faut changer de soulier. Aïe,
aïe,
oui.
Oh, oh.
J'ai mal. Ça va toujours, tant qu'il y a de l'amour. Mais pas tout de suite, d'ailleurs faut que je te quitte. Car j'ai du passé, du linge à repasser. Et des casseroles, j'en ai plein la carriole.
Aïe,
aïe,
oh,
oh. J'ai mal, j'en ai d'autres aussi. Qui sont pas mal aussi, on en reparlera, mais une autre fois. Et si ton chat va pas, dis-lui que je vais mal aussi. Aïe,
aïe,
oh,
oh.
J'ai mal.
C'est mal, et ben on a la solution, les médicaments, mais les médicaments sous pression, les médicaments sous influence à travers des médecins sous influence. On a parlé d'une corruption ordinaire, et là on voit que ben voilà, c'est à l'œuvre. Avec, grâce à cet auditeur, visiteur médical, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir accepté et voulu témoigner. Vous avez vu, sous couvert d'anonymat, on dira pas dans quelle région il circule. Il fait partie des 15 000 ou plus visiteurs médicaux qui arpentent notre pays. C'est un métier très offensif. On voit tout le côté militaire, le langage, les euphémismes, les entourloupes. langagière, c'est une armée au service des labos, les laboratoires pharmaceutiques consacrent autant d'argent aujourd'hui au marketing qu'à la recherche, c'est quand même à la recherche de nouveaux médicaments, c'est quand même, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'essentiel de leur but et de leur mission, et ben non, c'est d'abord le marketing, et on se trouve maintenant avec des problèmes de maîtrise des dépenses de santé. Suivez mon regard. Et justement, on parlait de médecins qui résistent, qui s'opposent à cette pression. Nous voilà chez le docteur Bessel. Lui, il dit son nom, il s'appelle pas A, il s'appelle pas B, il s'appelle Bessel. Voilà, c'est son nom et il parle à visage découvert. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas.
Bernard Bessel, vous êtes généraliste ?
Oui.
Alors, pour justement, pour faire cet entretien, je suis un peu le mode d'emploi. Je me suis fait donner le référentiel métier visiteur médical, une méthode pour réussir. Et je prends la posture d'excellence. Alors, je vais essayer. Jambes écartées dans l'axe des épaules. Je sens tout le poids de mon corps sur mes deux pieds. Jambes souples au niveau des articulations des genoux. Tête droite. Les épaules en arrière dégagées. J'adopte une respiration abdominale. Ces quatre points me libèrent de l'énergie et me fabriquent de la confiance, du plaisir et du calme qui fait que peut-être j'arriverai à vous vendre, moi, des médicaments.
Donc, je suis donc médecin généraliste, effectivement, et donc je reçois les visiteurs médicaux depuis le début de mon installation qui remonte maintenant à 29 ans. Au début, je les recevais librement. Ils passaient par là et comment ils se mélangeaient aux patients dans la salle d'attente. Ils attendaient leur tour et je les recevais. Une fois, ils étaient 11 dans la matinée.
11 représentants de commerce qui font la queue leu-leu.
Alors ce jour-là, j'aurais dit que je les recevrais avec ce rendez-vous parce que c'était plus possible, quoi. Bon. Alors je continue malgré tout à les recevoir parce que donc je coordonne pour la revue Prescrire un réseau qui s'appelle le réseau d'observation de la visite médicale. L'idée, c'était un petit peu de savoir ce qui se passait dans les cabinets, dans le colloque singulier qu'il y a entre un visiteur médical et un médecin. On se rendait compte qu'il y avait donc certains laboratoires qui demandaient aux visiteurs médicaux de déraper par rapport, en fin de compte, aux autorisations de mise sur le marché qu'ils avaient, d'élargir les indications, d'augmenter les posologies. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce réseau, parce que j'espérais pouvoir améliorer la visite médicale. Et là, depuis 14 ans, je me suis aperçu qu'il n'y a eu aucune amélioration, ni dégradation d'ailleurs, c'était quasiment nul, ça reste quasiment nul, en termes d'intérêt pratique pour la prescription du médecin. Donc la visite médicale pourrait être intéressante si effectivement, lorsqu'on présentait une nouvelle molécule, en même temps si on mettait en garde le médecin contre les effets indésirables de ce produit, si on le mettait en garde contre les interactions médicamenteuses qu'il peut y avoir avec d'autres produits, si on lui rappelait à chaque fois quelles sont les contre-indications, toutes ces informations-là, effectivement, serait utile au médecin. Mais c'est passé sous silence. Il y a même pas 10% des cas où ce travail est fait. Même pas 10% des cas. Ce qui fait que les médecins qui participent à mon réseau, comme après avoir vu le visiteur médical, de l'avoir bien écouté, en remplissant leur fiche, ils regardent la fiche vidale.
Et vidale, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la Bible.
C'est le gros dictionnaire rouge qui est sur le bureau du médecin, dans lequel sont recensés les milliers de médicaments qui existent. Donc, ils comparent avec ce document ce que le visiteur médical leur a dit. Ils s'aperçoivent immédiatement des choses qui ont été omises, des choses qui ont été fausses. Ce qui fait que, généralement, au bout de 6 mois ou d'un an, ils nous disent, je me suis rendu compte, en participant à ce réseau, que c'était complètement inutile, c'était une perte de temps de recevoir des visiteurs médicaux, je ne les reçois plus.
Est-ce qu'on peut dire que les médecins sont sous influence, que les prescriptions se font sous influence?
Alors, a priori, en prenant mon cas, je dirais non, parce que en fin de compte, je les vois venir avec leurs gros sabots, et en fin de compte, ça ne me fait aucun effet. Or, même en étant persuadé que ça n'a aucun, que ça glisse sur nous, en fin de compte, on se rend compte que ça joue. D'ailleurs, je pense que si l'industrie pharmaceutique dépense 25 000 euros par médecin prescripteur et par an pour faire connaître ses produits, c'est parce qu'elle pense en tirer un bénéfice, sinon elle ne le ferait pas.
25 000 euros d'investissement marketing des laboratoires par médecin en France.
Voilà, exactement, 25 000 euros. Il doit y avoir environ 30 milliards d'euros de prescriptions médicamenteuses et ça représente à peu près 10% de ce chiffre d'affaires. Alors c'est une somme extrêmement importante. En plus, donc, c'est une somme en fin de compte qui est financée par la sécurité sociale, puisque cette somme-là, elle est comprise dans le prix de vente du médicament. Et en fin de compte, c'est la sécurité sociale qui le rembourse. Alors on se dit quelque part que la sécurité sociale ou le ministère de la Santé, pour une somme qui serait sûrement moindre, pourrait faire cette information thérapeutique en fin de compte aux médecins, et ça permettrait sûrement qu'il y ait moins de prescriptions et un coût en plus moins élevé, quoi. Donc là-dessus, moi je ne reproche rien aux visiteurs médicaux qui font leur travail. Je reproche rien à l'industrie pharmaceutique qui vend ses produits. Je peux pas reprocher grand-chose aux confrères qui, en fin de compte, ont l'impression de s'informer au contact des journaux médicaux et au contact de ces visiteurs médicaux, puisqu'on leur propose rien d'autre. Et de plus en plus de médecins, quand même, c'est encore assez marginal, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 10-15% des médecins ne reçoivent plus de visiteurs médicaux, ont compris qu'ils seraient quand même peut-être l'esprit plus libre pour prescrire s'ils ne recevaient pas ces visiteurs médicaux. Donc ça participe, en fin de compte, à l'indépendance du médecin et à son sevrage de sa nourrice, l'industrie pharmaceutique, là, qui dès qu'il couine un peu, lui apporte du lait et du miel.
C'était Médecins sous influence, un reportage de Guy Vanctil. Merci à Charlie. Pour plus d'informations, à lire les articles de Martine Bullard, rédactrice adjointe au mensuel Le Monde Diplomatique, et de Philippe Pignard, Le Grand Secret de l'Industrie Pharmaceutique, aux éditions La Découverte. À la technique, Olivier Riotor et Michel Bézikian, le retour. Réalisation, Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert.